Une précision par rapport à ce qui a été dit il y a un instant, j'ai cinq petits-enfants, donc des filles et des garçons aussi, trois garçons et deux filles. Nos filles sont, par rapport à notre jeunesse, ma femme et moi, trop âgées, on a l'impression. L'aîné dépasse les 41, on ne sait pas comment, étant si jeune, on peut avoir des enfants si vieux, mais c'est comme ça. Mais avoir des petits-enfants, c'est la meilleure façon encore de prendre des coups de vieux. On a un grand bonheur de les recevoir, de passer du temps avec eux. Et j'ai l'impression qu'ils ont aussi du bonheur de passer du temps avec nous. Alors on est comblé. Avec Anne, le mois prochain, oh c'est gentil ça, j'en profite tout de suite. Ça c'est un frère. Avec Anne, nous fêterons le mois prochain 43 ans de mariage. Et si c'était à refaire, on le ferait plus vite, tout simplement. Je connais votre pasteur, John Glass. Je l'ai rencontré, je crois, les premières fois à l'IBG. J'étais là un matin où il donnait le culte aux étudiants et il a raconté son témoignage, comment le Seigneur l'avait rencontré lui. C'était un témoignage captivant. Je partage son amour pour la parole de Dieu, pour la prédication de la parole de Dieu. Et c'est donc avec joie que nous allons ouvrir ensemble cette parole ce matin pour partager quelques réflexions tirées du chapitre 10 du livre des Actes, qui rapporte un événement décisif dans l'histoire de l'Église. Nous allons lire dans le livre des Actes, au chapitre 10, les 23 premiers versets. Acte 10, verset 1er. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit: Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit: Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes, les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit: Lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit: Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la 2e fois, la voix se fit encore entendre. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant mis en quête de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit: Voici, 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Pierre donc descendit et il dit à ses hommes: Voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène ?» Ils répondirent, « Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. » Pierre donc les fit entrer, il les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Jopé l'accompagnèrent. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. D'une certaine manière, ce jour-là, jour de la visite de Pierre chez le Romain Corneille, Dieu ouvrait toute grande une porte restée quasiment fermée depuis des siècles. À cette occasion, Dieu révélait brillamment que la nouvelle alliance concernait tout autant les Juifs que les païens, des hommes de toute race, de toute nationalité, de tout peuple, pouvaient entrer dans son Église s'ils mettaient leur foi en Jésus, le Messie Sauveur. Juste avant de monter au ciel, le Seigneur Jésus avait commandé à ses disciples d'aller proclamer la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Mais déjà durant son ministère public, le Seigneur Jésus s'était soucié du bien de personnes non juives d'origine. Il avait pris soin de Samaritains et même de Romains, des personnes qui appartenaient à ces deux peuples généralement détestés par les Juifs. Cependant, la grande ouverture à l'Église naissante, à la conversion des païens et à leur entrée dans le peuple nouveau que Jésus bâtissait, cette grande ouverture a commencé, effectivement, chez Corneille, un centenier romain. Ne nous y trompons pas, pour l'apôtre Pierre, la maison de Corneille avait tous les défauts. Elle avait tout pour le rebuter en tant que juif. Même un juif qui avait été gagné par la grâce de Dieu, qui connaissait l'Évangile, qui avait marché aux côtés de Jésus. C'était la maison d'un Romain, et qui plus est d'un soldat, d'un gradé, d'un centenier, un chef de troupe, un des éléments de l'armée d'occupation si violemment méprisé et haï par ses compatriotes, obligés de subir sur leur pays la mainmise de Rome. Sans oublier que les Juifs, en payant leurs impôts, payaient eux-mêmes les frais occasionnés par les troupes d'occupation. Déjà qu'on ne paie pas nos impôts avec plaisir, quand il faut les payer pour entretenir une armée d'occupation, on comprend que cela rende malade. Ainsi, la maison de Corneille était pour l'apôtre Pierre le type même d'une maison à éviter à tout prix, une maison à fuir comme la peste. Pierre décrit sobrement cette réalité quand il arrive chez Corneille plus tard. Il leur dit, « Vous savez que la loi interdit à un juif de fréquenter un étranger et d'entrer chez lui. » Verset 28. Pierre aurait probablement accepté plus facilement de partir pour des îles lointaines plutôt que d'aller chez cet officier romain, la crème des envahisseurs. Pour lui, cette maison était pire que les extrémités de la terre dont Jésus avait parlé. Et pourtant, de cette extrémité, Dieu voulait en faire un commencement, une tête de pont, un formidable point de départ pour la conquête du monde païen par l'Évangile. Ainsi, quasiment de force, entièrement à l'initiative de Dieu des deux côtés, tant du côté de Pierre que du côté de Corneille, ces deux hommes, à l'initiative de Dieu, allaient être mis en présence, l'un de l'autre, un juif et un païen, que Dieu veut rapprocher pour en faire des frères. Concernant Corneille, les actes brossent de lui un portrait plutôt flatteur. Il est présenté comme un juste, un Romain différent de beaucoup d'autres, à l'opposé, par exemple, du personnage de Messala, pour ceux qui connaissent le film Ben-Hur. Messala, ce Romain orgueilleux, cruel, méprisant les Juifs, capable du pire pour se montrer supérieur. Corneille est à l'opposé. Ce qui est dit de Corneille nous rappelle alors que cette vérité toute simple est qu'il ne faut jamais juger du caractère d'une personne sur sa seule nationalité. Ne me jugez pas à cause de mon accent du midi, que je n'ai pas perdu après 40 ans de Suisse. Mais on peut juger les gens que sur la nationalité. Ah, c'est bien un Romain. Ou bien on dira, ah, c'est bien un Suisse. Ou bien un Français. Et l'expression peut être variée à l'infini. Et le sous-entendu, quand on parle comme ça, est rarement positif. Il ne faut pas juger tous les Romains à l'aune de Messala. Il y avait parmi eux au moins un Corneille. Cet homme avait faim et soif de vérité et de justice. Il faisait partie des craignants Dieu, pratiquant ce qu'il avait compris de la foi d'Israël. Il priait, pratiquait les aumônes. Il se souciait des pauvres. Il éprouvait de la compassion pour les Juifs, car il connaissait les misères qu'endurait ce peuple, entre autres, à cause de la présence de lui et de ses compatriotes, soldats romains. Ses actes prouvaient que ses sentiments étaient vrais, profonds, sincères. C'était un homme droit, humble, à l'écoute et au service des autres. Le peuple juif, aujourd'hui, il aurait peut-être classé parmi ce qu'on appelle les justes. Jésus avait dit, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Et selon cette promesse, Dieu répondait aux prières de Corneille par un message bref, mais qui contenait une très bonne nouvelle. Dieu a entendu tes prières, il a vu tes actes. Il veut maintenant répondre à ton attente. Corneille prouve alors à quel point il est un chef, un homme d'action. C'était au milieu de l'après-midi que l'ange lui est apparu, vers 15h, la 9e heure de l'époque. Et tout de suite, il réagit, il s'organise. Il fait appel à 3 hommes de confiance, dont, détail intéressant, un soldat pieux, attaché à sa personne, dit le texte. Ces 3 hommes écoutent le récit que leur fait Corneille, le récit d'une rencontre surnaturelle avec un ange, et ils prennent très au sérieux son témoignage. Ils savaient que Corneille n'était pas homme à leur raconter des blagues. Ils sont prêts à partir aussitôt à la recherche de ce Simon, surnommé Pierre. Pierre, quant à lui, il est à 50 kilomètres de Césarée, vers le sud, dans la ville de Jaffa, le long de la côte méditerranéenne. Une belle marche en perspective, s'entraîner, 50 kilomètres. Le lendemain, vers midi, les hommes de Corneille s'approchent de Jaffa, après au moins 12 à 14 heures de marche. Ils n'ont eu probablement que quelques heures de repos pendant la nuit pour dormir et se nourrir un peu. Au même moment, alors qu'ils s'approchent de Jaffa, Pierre monte sur le toit de la maison où il réside pour prier. Un toit en terrasse comme cela se trouvait souvent à l'époque. Pierre, à ce moment-là, n'est de loin pas prêt à recevoir ces trois hommes, et encore moins à les suivre chez leur maître. Mais à ce moment-là, Pierre cherche la présence de Dieu. Au milieu d'une activité intense, pour faire face à de multiples sollicitations, il éprouvait le besoin de s'approcher de Dieu, avec le désir de mettre ses pensées à l'unisson avec celles de son Seigneur. Pierre avait souvent vu le maître se retirer pour prier, et en faisant ce qu'il faisait ce jour-là à midi, il continuait de prendre exemple sur son Seigneur. Avait-il des fardeaux à déposer, de l'aide à demander, ou bien des louanges à adresser à Dieu, des paroles de reconnaissance? Parce que Pierre constatait que malgré l'opposition, malgré les persécutions, l'œuvre grandissait, se développait, l'Église s'édifiait. Ce jour-là, il est évident que Pierre n'avait pas tout compris. Ce chapitre 10 du livre des Actes en apporte la preuve. Mais Pierre donnait fidèlement au Seigneur l'occasion de lui montrer la voie à suivre, l'occasion de rectifier chez lui le tir, si l'une ou l'autre de ses convictions n'était pas juste. C'est un bel exemple pour nous d'avoir cette sagesse au quotidien, de passer du temps avec Dieu, d'ouvrir sa parole, de fixer nos pensées sur elle pour qu'elle nous parle, qu'elle devienne agissante dans nos cœurs, dans notre pratique chrétienne. Nous n'avons pas tous des missions aussi lourdes que celles que l'apôtre Pierre devait remplir dans ses premières années déterminantes de l'œuvre d'édification de l'Église. Mais pour réussir notre vie, pour avancer dans notre travail, pour trouver la force de rester fidèle, c'est aussi très important pour nous d'entretenir notre relation avec Dieu, avec sa parole au quotidien. J'ai lu un poème en anglais qui parle de la prière, je l'ai traduit, alors j'ai perdu la poésie, mais j'espère que je n'ai pas perdu le sens. Il dit ceci: un matin, je me levais d'un bon pas, d'un bon pied, pour m'engager dans une nouvelle journée. J'avais tant de choses à faire que je n'avais pas de temps pour prier. Bientôt, les problèmes m'assaillirent et mon travail me pesait de plus en plus. Je m'étonnais, pourquoi Dieu ne m'aide-t-il pas? Il me répondit: me l'as-tu seulement demandé? Je voulais produire des choses belles et heureuses, mais les résultats étaient ternes et désolants. Pourquoi Dieu ne me disait-il pas comment faire? Il me dit: as-tu seulement cherché où il fallait? Je voulais vraiment entrer dans sa présence, j'essayais sur sa porte toutes sortes de clés, mais elle restait obstinément fermée. Et Dieu me dit: mon enfant, as-tu seulement frappé? Je me suis levé ce matin. J'ai fait silence avant d'entamer ma journée. J'avais tellement de choses à faire qu'il me fallait vraiment prendre du temps pour prier. Quelques bonnes suggestions, quelques bonnes questions de la part du Seigneur. As-tu cherché, demandé, frappé à la bonne porte? As-tu pris conseil auprès de moi? Réalisons-nous, comme l'auteur de ce poème, notre besoin de donner à Dieu les occasions de nous aider, de nous montrer la voie. Rien ne remplace le temps passé à se mettre dans la présence du Seigneur consciemment, en priant qu'il nous dit, qu'il nous guide simplement, qu'il nous éclaire par sa parole. Du chapitre 10 du livre des Actes, on pourrait surtout retenir les blocages de l'apôtre Pierre. Nous allons en parler. Mais prenons d'abord le temps de prendre exemple sur lui, sur son ouverture à Dieu, sur sa bonne attitude de prier, de se mettre en position d'écoute. Cela aussi, c'est le commencement de la sagesse. Considérons maintenant le temps de la vision très particulière que Pierre a reçue du Seigneur ce jour-là. Curieuse vision d'animaux en tout genre, oiseaux, reptiles, quadrupèdes. Toute la création animale est présente. Pour combler l'appétit de l'apôtre, c'est midi. Il m'arrive aussi d'éprouver, à peu près à la même heure, vers midi, une certaine angoisse au niveau de l'estomac. Je ne sais pas pour vous, mais moi ça fait longtemps que ce genre de choses se produit. Et Pierre a cette angoisse, et il demande qu'on lui prépare un repas. Curieux commandement quand même, faisant de Pierre le cuistot de service. Tue et mange. Si le commandement nous surprend, la réponse de l'apôtre Pierre nous surprend aussi. Non, Seigneur. C'est catégorique, sans appel. Et l'apôtre justifie sa réponse. De ma vie, je n'ai rien mangé de souillé ou d'impur. En examinant l'ordre que le Seigneur donne à Pierre et sur lequel le Seigneur insiste, on peut déjà en déduire que quand on se met à l'écoute de Dieu, il y a un risque. Positif, on va le voir, mais un risque. Car Dieu peut très bien nous demander, à ce moment-là, alors qu'on est à son écoute, Dieu peut très bien nous demander des choses qui ne nous plaisent pas, en opposition directe avec nos inclinaisons, avec nos conceptions religieuses, avec nos traditions personnelles. Pierre était quelqu'un de vraiment très bien, super engagé dans l'œuvre de Dieu, dévoué, courageux, infatigable. Depuis la Pentecôte, que de preuves il avait donné d'un engagement sans faille dans la mission que Jésus lui avait confiée, paie mes agneaux, paie mes brebis. Il ne cachait pas son drapeau, très fermement, il tenait tête, même aux autorités menaçantes qui voulaient le faire taire. Pierre n'était pas un tiède, il était prêt à souffrir pour Jésus. Mieux que cela, avec ses compagnons apôtres, il se disait joyeux d'être jugé digne de subir des outrages pour le nom de Jésus. Joyeux d'être jugé digne de subir des outrages pour le nom de Jésus. Pourtant, Pierre éprouvait une sorte de blocage face aux païens. Il n'était pas prêt à aller vers eux. Et son attitude, c'est comme s'il disait à Dieu, « Seigneur, pas encore, pas eux, pas lui. » Jésus avait bien dit toutes les nations, mais c'était peut-être pour la génération suivante, quand Pierre et les autres apôtres auraient tiré leur révérence. Pierre faisait comme si Jésus n'avait pas déjà donné l'exemple. Aussi dans ce domaine, en évangélisant des Juifs, comme aussi des Samaritains, ou comme une fois, quand Jésus admire la foi d'un autre centenier romain. Pierre gardait dans son cœur un préjugé contre les Grecs et les Romains, tous païens, tous barbares, et en plus idolâtres. N'était-il pas en gros indigne de la grâce ? En méditant sur ce chapitre, j'ai pensé à ce roman de Jane Austen, orgueil et préjugés. En pensant au problème de Pierre ce jour-là, ces deux mots résument bien la cause de beaucoup de blocages dans le cœur de beaucoup d'hommes, y compris parfois de chrétiens. Des mots qui couvrent des attitudes et qui expliquent le pourquoi de ce genre de réponse que Pierre offre au Seigneur Jésus. Non, Seigneur. Il était fier de sa rigueur morale pour appliquer les règles héritées de ses pères. Et en plus, Pierre est bourré de préjugés concernant les païens, incapables de les voir autrement que comme ses compatriotes juifs les voyaient. L'occupant romain, détestable. Pierre n'était vraiment pas seul à avoir ce type d'orgueil et de préjugés à cette époque-là. Il y a des causes et des attitudes qui peuvent très bien nous concerner, nous aussi. En tous les cas, Dieu voulait corriger ce type d'erreur grave dans la vision troublante offerte à l'apôtre sur sa terrasse. Une vision et un ordre qui, d'une certaine manière, signifiaient la fin des lois cérémonielles qu'observaient les Juifs, qui faisaient la différence entre animaux purs et impurs pour les bêtes destinées au sacrifice à apporter dans le temple. Depuis le sacrifice de Christ sur la croix, une fois pour toutes, cette distinction était dépassée, obsolète. Quand l'apôtre en parle, l'apôtre Paul, aux Colossiens, chapitre 2, 17, il dit « C'était l'ombre des choses à venir, maintenant la lumière est en Christ. » Mais Pierre n'était pas prêt à accepter cela. Il y avait conflit entre ses conceptions religieuses inculquées dès l'enfance dans le cœur de l'apôtre et ce commandement du Seigneur. Et Pierre tenait à garder sa conception des choses. Ça, c'était lui, c'était son histoire, son éducation, ses racines, il en était fier. Et ce n'était pas aujourd'hui qu'il allait changer ses règles alimentaires pour manger des choses que les lois anciennes déclaraient impures. Non, Seigneur, c'est à prendre ou à laisser. Mais le Seigneur répond fermement à ce refus, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Trois fois le même commandement, tue et mange, et trois fois la même réponse, le même refus, et trois fois la même insistance de la part du Seigneur, la même explication de sa part. Ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme impur. Cette insistance n'était pas de trop, semble-t-il, pour contrer l'orgueil et les préjugés de l'apôtre. On sait ce que c'est que d'avoir des idées fixes, des blocages sur quelque chose, une sorte de réflexe de refus ou de dégoût. Il n'est pas facile d'en changer quand on a ce genre de blocage. Mais Dieu fait comprendre à l'apôtre que tous les hommes, juifs ou païens, sont égaux dans le péché, mais aussi égaux devant la grâce. En ce qui concerne le salut, il n'y a plus ni juif ni grec. Les hommes se séparent en deux catégories, les perdus et les sauvés. Et il faut faire tout notre possible pour que les premiers rejoignent les seconds. Non, Seigneur, la réponse de l'apôtre à l'ordre divin montre que notre obéissance ou notre désobéissance se fait parfois en fonction de nos goûts. On a envie ou pas envie, on veut choisir. Cela nous plaît ou nous laisse indifférents, cela nous réjouit ou bien cela nous hérisse. C'est réalisable ou bien cela remet trop en cause des choses auxquelles on tient trop. Nous répondons à ce que Dieu demande en fonction de ce qui ne dérange pas trop nos habitudes ou qui ne nous oblige pas à remettre en cause une opinion cristallisée de longue date. Mais les ordres du Seigneur ne sont pas facultatifs. Le Seigneur ne dit pas à l'apôtre, écoute, tu fais comme tu veux. Si tu veux pas, c'est pas grave. J'ai dit toutes les nations, j'ai dit toute créature, mais tu es libre d'exclure qui tu veux. Libre. Oui, c'est vrai, on est libre de choisir, de dire non, Seigneur, mais c'est le choix entre obéir ou désobéir, entre croire ce que dit Dieu ou douter de lui, avec les conséquences d'un tel choix. Il y a donc chez chacun de nous des résistances, et il faut le confesser. La volonté de Dieu nous plaît, surtout quand elle va dans notre sens, quand elle s'adapte à notre contexte, quand elle ne perturbe pas trop nos projets, quand elle ne dérange pas trop nos intimes convictions. On aime quand Dieu est d'accord avec nous, pas vrai? Mais reconnaissons que c'est le monde à l'envers qui apparaît dans ces deux mots. Non, Seigneur. Comment sérieusement les penser et les dire en même temps, dire non à celui qui est Seigneur. Pierre a eu de la peine à aller chez Corneille, mais comme je l'ai déjà dit, il n'était pas le seul à penser comme il pensait. Quand les anciens de l'église de Jérusalem apprennent où il est allé, chez qui il est entré, ils se mettent en colère, nous dit le chapitre 11, verset 1 à 3. Ils sont très fâchés. Bien d'autres, alors, auraient répondu comme l'apôtre Pierre à l'ordre venu d'en haut, « Tue et mange ». Quand on dit « Non, Seigneur », on est rarement seul. Des milliers d'autres le disent comme nous. Même des chrétiens, convaincus et engagés. Mais cela ne devrait pas nous rassurer, car on peut être nombreux à avoir tort. Devant Dieu, une majorité ne fait pas une vérité. Et un seul avec Dieu, ça fait une large majorité. Comme Élie au sommet du Carmel. Heureusement que Dieu n'a pas abandonné l'apôtre Pierre à son refus. Il s'est fait insistant, nous l'avons lu, et tout de suite l'Esprit de Dieu l'a guidé vers des travaux pratiques. Des gens venaient le chercher, suivez, sans hésiter. Il fallait que Pierre réalise que Dieu ne donne pas d'ordre farfelu, qu'il ne fait pas dans l'arbitraire, qu'il a toujours d'excellentes raisons pour demander ce qu'il demande. C'est pour notre bien et pour l'avancement de son œuvre qu'il veut nous conduire. Pierre va avoir l'occasion de comprendre, de réaliser qu'obéir à Dieu, ce n'est pas un sujet désolant ou triste, c'est un sujet de joie. Il va vivre une expérience marquante, riche, qui portera des fruits excellents dont il se régalera. Arrivé chez Corneille, qui a réuni sa parenté, ses amis intimes, Pierre déclare « Dieu m'a fait comprendre qu'il ne faut considérer aucun être humain comme souillé ou impur. » Et il ajoute « Maintenant je me rends vraiment compte que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Au contraire, dans toute nation, tout homme qui le révère et qui fait ce qui est juste lui est agréable. » Ayant enfin compris cela, Pierre peut expérimenter un des plus grands moments de son ministère, un des plus enthousiasmants. La chose qui le rebutait tant, qui était si contraire à son éducation, à ses traditions, cette chose-là était bonne, belle et bonne. Il vit Dieu à l'œuvre, il vit l'antique promesse faite à Abraham se réaliser. Quand sa postérité, c'est-à-dire Jésus, deviendrait en bénédiction à toutes les nations. quand le salut serait réellement offert à quiconque croyait en lui. Pierre assistait au miracle de vie transformée, de païens remplis eux aussi par le Saint-Esprit. Ces gens qu'il croyait si loin, si peu fréquentables, devenaient ses frères dans la foi, rachetés par le sang précieux de Christ, comme lui. Après avoir raconté de Jésus, la vie de Jésus et son œuvre sur la croix, Pierre déclare, et c'est un verset formidable, « Tous les prophètes qui ont parlé de lui en disant que quiconque croit en lui reçoit par lui le pardon des péchés. » De lui, en lui, par lui, Jésus. Oui, Jésus était bien la réponse aux besoins de salut de toute l'humanité et des païens qui étaient devant lui, Corneille et les siens. Pierre était l'instrument du Seigneur pour ouvrir ce jour-là la porte du salut à ces gens-là, parce qu'ils mettaient leur foi en Jésus comme ils l'avaient fait. Ce récit est important pour nous. Face à la volonté déclarée de Dieu, nous n'avons pas toujours la bonne attitude, la bonne réaction. Nous avons l'impression parfois qu'elle n'est pas forcément juste pour nous. Cette attitude de défiance, de rejet têtu face à ce que Dieu veut, on le voit dans cette histoire, nous prive de bénédictions certaines. On a parfois ce problème, même en tant que chrétien, quand on refuse ou qu'on hésite face aux ordres clairs du Seigneur. J'ai rencontré cela face à la question du baptême, par exemple. À ceux qui se repentent de leur péché et qui acceptent la grâce du pardon, l'ordre est clairement donné de se faire baptiser. Pierre répercuta l'ordre du Seigneur dans Matthieu 28, lors de la Pentecôte, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Et il nous est dit, dans ce même chapitre, acte 2, au verset 41, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. » Et plus tard, chez Corneille, voyant l'authentique conversion de ceux qui étaient là, Pierre organisa une belle réunion de baptême pour eux. Vous lirez les versets 47 et 48. J'ai parfois constaté au cours de mon ministère que malgré la clarté de l'ordre du Seigneur concernant le baptême en témoignage de notre foi en Jésus, des amis vraiment chrétiens, convertis, hésitent à obéir, repoussant la décision à plus tard, parfois pendant des années. Mais sur d'autres ordres du Seigneur, il nous arrive aussi d'hésiter, voire de refuser de faire ce que le Seigneur nous demande de faire, que de commandements clairs face auxquels on tergiverse, on trouve des raisons de faire autrement, d'attendre, de reporter ou de dire que ce n'est pas pour nous ou que ça ne s'applique pas aux personnes qui sont concernées avec nous. Des exhortations simples à pardonner ceux qui nous ont offensés, à faire tout notre possible pour être en paix avec les autres, autant que cela dépende de nous, dit l'apôtre Paul, ou de pratiquer les uns les autres que nous trouvons dans le Nouveau Testament, des commandements à aimer, à accueillir, à supporter, à espérer, à être patient, à n'exclure personne du droit à entendre l'Évangile proclamé avec amour. Appel divin devant lesquels, comme Pierre, on fait parfois le tri. D'accord pour vivre cela avec cette personne, mais pas avec celle-là. Ce nom Seigneur peut ne pas s'entendre dans nos bouches, mais être en réalité présent dans nos choix, dans nos décisions, dans nos hésitations. Comme Pierre, nous avons de la peine à discerner et à nous laisser convaincre que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. L'aventure de l'apôtre dans Acte 10 nous oblige à réfléchir à cette attitude pour corriger le tir et remettre de l'ordre parfois dans nos convictions comme dans notre pratique de l'Évangile. Dernier détail à relever. Ce n'était pas la première fois que l'apôtre Pierre disait non au Seigneur. Vous rappelez la première fois ? Matthieu 16, Jésus parle de sa mort prochaine et l'apôtre Pierre l'arrête. Non, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Vous vous souvenez de la réaction du Seigneur Jésus qui reprend l'apôtre sévèrement en disant ces paroles célèbres, « Arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Deuxième occasion, on est à la veille de la crucifixion. Pierre constate que le Seigneur Jésus s'est mis en demeure de laver les pieds des apôtres. Et quand il arrive à l'apôtre Pierre, avec la bassine et le linge, Pierre lui dit « Non, Seigneur, tu ne me laveras pas les pieds. » Et Jésus lui répond « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Pierre se laisse convaincre au point que il finira par dire au Seigneur Jésus « Ne me lave pas que les pieds, tout l'être entier, de la tête aux pieds. » Et puis la troisième occasion, c'est celle que nous avons vue ce matin. « Non, Seigneur, à cause de convictions religieuses. » Il est alors intéressant de noter que ces trois refus de l'apôtre partaient tous de bons sentiments. Pierre a par trois fois résisté à la volonté du Seigneur parce qu'il ne voulait pas l'entendre parler de sa mort ou parce qu'il ne voulait pas le voir s'abaisser devant lui comme un esclave ou parce qu'il voulait rester ferme dans son idéal de pureté. C'est beau. Ces trois causes de désobéissance montre bien que la désobéissance n'est pas toujours occasionnée par une volonté délibérée de mal agir, de s'opposer à Dieu. On peut désobéir pour d'apparentes bonnes raisons. En trois occasions, Pierre a dû comprendre qu'il se trompait dans son refus de la volonté de Dieu. Et il fallait que Jésus meure à Jérusalem, avant de ressusciter le troisième jour. Il fallait que Jésus donne à ses disciples un exemple d'humilité et de service. Il fallait que juifs et païens puissent par la foi recevoir la grâce du salut et entrer dans l'Église, rassemblement des convertis de toute origine. En conclusion, y a-t-il des sujets sur lesquels nous savons très bien ce que Dieu veut de nous, mais face auxquels on hésite, reportant à plus tard l'obéissance, l'action, le geste ou la parole qu'il attend de nous? Souvenons-nous alors d'Acte 10, ce texte qui nous donne au contraire d'excellentes raisons d'être joyeux dans l'obéissance, pour dire à notre Seigneur ces deux mots qui vont si bien ensemble, et vous savez lesquels. Oui, Seigneur. Disons-le ensemble. Oui, Seigneur. Amen.